nous, la culture, grecque, romaine, etc., avec l'héritage de la tradition, qui elle est centrée tout entière autour du problème de l'individu et de la liberté. Et chaque fois qu'Israël, le peuple d'Israël, a rencontré une nouvelle forme de la civilisation des empires, un nouveau style de ce qu'était la mentalité égyptienne, a recommencé cette confrontation entre celui qui descend d'Abraham, qui est sorti d'Égypte, qui sait que la relation avec le sens de sa destinée est une relation de personne à personne, et une civilisation qui, au contraire, devient de nouveau déterministe. Voyez, c'est clair ? L'héritage de la tradition se recrée à chaque génération par l'épreuve de la crise religieuse, qui devient ainsi un des éléments constitutifs d'une véritable vie juive religieuse. Bon, alors vous verrez. Donc la suite, quand vous aurez le texte. Bon, le thème principal de cette première partie, c'est la confrontation entre la conception hébraïque de Dieu, appuyée sur une révélation par l'événement, que Dieu c'est celui qui nous donne à une histoire, et la confrontation du Dieu de la nature, c'est celui qui garantit le mécanisme de la détermination des lois qui nous comprennent. Vous voyez à quel point la confrontation entre Israël et les nations se fera aiguë chaque fois qu'une société cristallise cette conception païenne. Et aujourd'hui, c'est le marxisme russe. C'est le matérialisme dialectique. La raison pour laquelle l'antagonisme, c'est ça, Israël. Remarquez, la préface ayant été avec le nazisme, qui était aussi une de ses conceptions du monde, opposée à la conception divine de Dieu, paganisme absolu. C'est-à-dire cet antagonisme que nous avons connu entre Israël, l'Égypte, Israël, la Grèce, Israël, Rome. Aujourd'hui, nous le vivons dans le temps contemporain, dans la confrontation entre l'identité juive et le marxisme dialectique. Je veux dire que ce n'est pas par hasard que les croyants, les sectateurs de cette religion païenne du marxisme dialectique sont les anti-juifs par excellence. Mais de façon passionnelle, irraisonnée, Israël, c'est l'ennemi. Vous avez compris ça, comment dans le monde entier, dès que un pays devient république démocratique, socialiste, soi-disant populaire, la première chose qu'il commence à déclarer, l'ennemi, c'est Israël. Et vous voyez que c'est le nazisme en travail. Vous comprenez bien cette chose. Bon, alors, ça suffit pour ça. On va maintenant aborder la règle. Il n'y a pas de question là-dessus. Qu'est-ce que c'est-à-dire, c'est la manière dont on traduit en français. Mais je vais essayer de reconstituer un peu le raisonnement. El Shaddai, ça veut dire Dieu qui peut promettre parce qu'il est tout-puissant. Mais en hébreu, le sens traditionnel de El Shaddai, c'est le Dieu de la promesse. Celui qui promet la fécondité. Dieu, en tant que El Shaddai, c'est la manière dont les Avot perçoivent Hachem plus qu'en pressentiment. Ils savent que c'est Hachem qui se dévoile comme El Shaddai, mais ils expérimentent la révélation de promesses. Tandis que la génération des fils va expérimenter la révélation d'accomplissement. Oui, mais ça, c'est un terme philosophique qui vient du vocabulaire du déisme philosophique et qui nous gêne. Non, c'est pourquoi je vous explique que dans vos traductions, vous trouverez que El Shaddai, on traduit par tout-puissant. Mais il faut dépasser cette notion purement abstraite que par définition, Dieu est tout-puissant. Mais, je vais faire un peu l'analyse. Si je dis que de Dieu, il est fort, quel sens ça peut avoir ? Ça ne peut avoir de sens, ça commence à avoir de sens, que si c'est contre sa propre puissance qu'il est fort. Or, quelle est sa puissance ? C'est les lois de la nature. On a un enseignement de la morale juive qui est dans la Mishnah des Pirkei Avot, je ne sais pas si vous l'avez étudié. Ezehu Gibor Akovesh Yitzro. De qui on peut dire qu'il est vaillant ? C'est celui qui est plus fort que lui-même. Parce que être plus fort que quelqu'un d'autre, ce n'est pas être fort, c'est que l'autre est plus faible. Clair ? Et alors, le midrash que j'utilise maintenant, à propos du nom de El Shaddai, ce n'est pas celui que tu viens de citer, c'est El Meshaded Maharachot. L'ishdot en hébreu, ça veut dire tout casser. Shoded, cambriolage, effraction. Voilà. Meshaded Maharachot. De qui nous parlons lorsque nous parlons de Dieu comme El Shaddai? De celui qui est capable de briser le conditionnement des constellations. Littéralement, ça veut dire Dieu dévastateur. Chaudet, brigand. Et c'est les mots du vocabulaire, du dictionnaire. Mais comprenez-le. Chaudet, ça veut dire qu'il y a des constellations, dans le sens strict du terme, dans lesquelles nous sommes prisonniers. La croyance en El Shaddai, c'est que ces constellations doivent être détraquées, en fait détraquées, cassées, de telle sorte que la liberté surgit. Et donc, les Avot reçoivent cette révélation. Dieu se révèle à eux comme El Shaddai. Quand je dis Dieu, ça veut dire le Créateur. Mais à partir du temps de Moïse, l'accomplissement va s'accomplir. Alors le nom est révélé. Bien. Oui.
Est-ce pour préserver, enfin, je suppose que c'est pour préserver justement cette relation de personne à personne entre Dieu et l'homme, Dieu et Israël, que Shaoul a tellement insisté pour qu'il n'y ait pas de roi à la tête d'Israël.
Pas Shaoul, Shmuel.
Shmuel, oui.
C'est-à-dire les consignes que Shmuel va donner, c'est qu'il faut qu'il y ait égalité absolue. Je vais vous donner. C'est le fait d'avoir un système qui délègue le pouvoir à un gouvernement, c'est déjà l'Égypte. Okay. Bon, alors donc nous sommes toujours tendus vers cette utopie des temps messianiques où il y aura égalité réelle. Et il n'y aura pas de hiérarchie que l'un domine quelqu'un d'autre. Okay. Mais si déjà on n'est pas encore à ce stade où il est possible d'organiser la société égalitaire vraiment, alors, il faut choisir comme roi quelqu'un qui se considère comme un frère de ses sujets, mais pas un chalice, pas un potentat, pas un tyran. Ok ? C'est clair ?
Est-ce que nécessairement le pouvoir et la royauté entraînent, on l'a vu, presque nécessairement à être un potentat ?
Exactement. C'est pourquoi l'objectif, c'est. Je veux dire, la conscience juive traditionnelle, peut-être vous étonner, elle est anarchiste dans le sens étymologique, anarchia, sans hiérarchie. C'est une confédération égalitaire des consciences libres anarchiques. C'est la raison pour laquelle il y a toujours une tendance anarchiste chez un juif. Parce qu'en fin de compte, on sait qu'il faut démolir tous les pouvoirs. Parce que tous les pouvoirs sont tyranniques, tous les pouvoirs sont légitimes. Maintenant, ceci dit, tant qu'on n'est pas encore arrivé au stade moral qui permet la relation de personne à personne, vous rappelez, sujet, alors il faut des hiérarchies. Mais alors il faudra donc que que le roi soit soumis au prophète pour limiter ses pouvoirs. C'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple dit on a besoin d'un roi, et regardez bien le contexte, pourquoi on a besoin d'un roi? Parce que nous sommes attaqués par les peuples extérieurs. Il nous faut le chef des armées. Il faut nous organiser en armée. Et pour ça, il faut un chef. Et alors, première réaction de Shmuel, vous n'avez qu'un seul roi, c'est le Créateur. Mais oui, mais on a besoin. Ah, vous avez besoin, vous allez vous faire un roi. Mais faites attention, il deviendra le tyran. À moins que vous appliquiez la Torah. C'est clair? Vous comprenez bien le problème. C'est très grave quand quelqu'un se laisse prendre à son conditionnement de chef d'État. Il fait des gaffes monumentales. Et c'est le peuple qui trinque après. Oui, à peu près le. Et comme il a tous les pouvoirs.
Et pourquoi, dans certains courants de Moucheronim actuellement, on pense avec sérieux à l'établissement d'une royauté?
Non, ça veut dire à l'établissement de la royauté légitime. En dehors des légitimes, en dehors des termes, le chef d'État, c'est ça le roi. C'est pas plus compliqué. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez cela, dans toutes les sociétés, finalement, quelle que soit l'allure démocratique, inévitablement, le chef d'État a les pouvoirs d'un potentat. Regardez par exemple le régime présidentiel aux États-Unis. C'est une démocratie, les États-Unis. C'est vraiment une démocratie. Une démocratie comme on peut avoir dans un siècle pareil. Et pourtant, le régime présidentiel donne tout pouvoir au président. Et c'est-à-dire, quand il veut faire passer une loi au Congrès, il s'arrange pour la faire passer, parce qu'il a les ficelles des groupes de pression, etc. Non, il ne s'agit pas du tout d'installer la royauté plutôt que la République, c'est pas ça le problème. Il s'agit d'installer la hiérarchie légitime. C'est pas une question de forme, la couronne ou le cap de Begin. Okay. Bon, mais Begin, c'est le commencement. C'est comme ça qu'on dit en anglais, Begin. Bien. Alors, revenons au problème. Alors, nous allons maintenant couler 5 minutes à chaque homme, c'est pas la peine. Hein? Bon. Alors, ce que je voulais déjà commencer ce soir, c'est de vous expliquer l'ordonnance de la cérémonie du Seder du soir de Pessah, de la commémoration de l'événement de la sortie. Si vous voulez, le premier titre du premier chapitre qu'on va étudier. Et l'événement principal du CDR en hébreu, ça veut dire CDR, l'ordre, l'ordonnance. Okay. Vous pouvez étudier cela dans votre cours de bibliographie sera consacré à Pessah. Et vous réétudierez comment piloter dans la Haggadah les différentes parties et les différentes parties du Seder. Okay. La partie technique, je vais la laisser de côté, mais je vais vous expliquer l'ordonnance elle-même. Et les différents mots. Alors, le Seder, c'est l'ordonnance. Et il y a 10 étapes de ce Seder. Une de ces étapes, c'est la Haggadah. Alors, le mot de Haggadah, maintenant, vous allez le comprendre. Parasim, c'est les Haggim. Celui qui récite la Haggadah, celui qui dit la Haggadah, s'appelle le Magui. Celui qui récite. Donc, vous comprenez bien que la Haggadah que nous allons étudier, j'espère, assez à fond, en tout cas dans ses principales parties, c'est une des 10 parties du Seder de Pessah. Alors, nous allons commencer ce soir à étudier le verset qui institue le rite de la Haggadah, le récit de la Haggadah. Et je vous ai donné ces références, puisque j'ai mis mes notes. Alors, c'est dans Exode 13 que vous allez prendre ce verset. Shemot 13. Alors, je vous demande vraiment instamment de consacrer tout votre temps de libre à explorer les premiers chapitres de Shemot attentivement et minute. Et votre texte de la Haggadah. Tout le monde a une Haggadah traduite, de telle sorte de pouvoir, à chaque cours, avoir déjà par vous-même formulé les questions qui se posent à vous, ça m'aidera à aller plus vite dans l'enseignement. C'est clair? C'est ainsi qu'un des rites principaux que nous allons voir du Seder de Pessah, c'est qu'on doit se questionner, poser des questions sur Pessah. Vous aurez d'ailleurs des questions auxquelles il n'y a pas encore de réponse. Alors, prenez votre livre. En principe, vous devez déjà savoir où c'est, puisque vous avez préparé le verset. Et comme vous ne l'avez pas préparé, vous êtes comme ça. Tu dormais, tu étais dans les chivanos, tu t'es rêvé. Alors, chapitre 13, verset, vous êtes libre ce soir. Alors, dormez tôt, qu'à partir de demain, vous soyez frais et dispo. Alors, chapitre 13, verset 8. Alors, c'est parmi les dispositions des mitzvot de la commémoration future de cet événement de la sociologie qui est point de départ, irréversible, mais qu'il faut amener jusqu'à la fin. Ok ? Vous voyez, on a mis 3000 ans pour sortir des Juifs. Je ne sais pas ce qu'il y aura comme conséquence des événements que nous avons vécus cette semaine, je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège d'être à Jérusalem au moment où ça s'est passé. 3000 ans, c'est énorme. Et puis voilà que. On a mis 3000 ans pour s'obtenir. On va voir si on est vraiment sorti. C'est quand même quelque chose. Là, vous raconterez ça aux petits-enfants. J'y étais devant la télévision. Lévi, Marc, vous êtes à le cocktail. Tout simplement, vous êtes arrivé après la cérémonie. C'est pas grave, vous êtes allé au côté, c'est une histoire pour elle-même. Et en tout cas, pour ceux qui sont à, ceux qui seront en Israël à Pessah, n'oubliez pas que c'est une mitzvah d'aller faire au moins une des prières de Pessah. C'est la mitzvah de Aliyah Laregel. C'est la mitzvah des fêtes de pèlerinage. Autant que possible le premier jour. Sinon, vous avez encore le temps de sortir, mais autant que possible le premier jour. Bien. Alors, bon, ça, je vous rappellerai ça. Alors, voilà ce verset. Veigat, suivez sur le texte. Veigatta lebincha, bayomahu lemo. Veigatta lebincha, et tu raconteras, tu expliqueras à ton fils, bayomahu, en ce jour-là, les mots en disant Ba'avourze, c'est pour cela. C'est-à-dire, lorsque les mitzvot de la commémoration se feront, le jour commémoratif chaque année, l'enfant va être intrigué de ce qui se passe. C'est-à-dire, de quoi vous vous occupez ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, quand la question se posera, tu expliqueras, ça y est, tu expliqueras à ton enfant. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah pour la génération des parents. D'expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Je veux revenir là-dessus. C'est le point le plus important. C'est une mitzvah générale. Il faut que le père apprenne à son fils qui il est. Le fils. Mais le fils ne peut le savoir que si le père le lui explique. Vous voyez dans quelle génération difficile nous sommes depuis l'émancipation. Les pères ne sont pas des pères. C'est la raison pour laquelle les fils ne sont plus des fils. Vous avez compris ce que je veux dire ? Mais je veux revenir sur ce point. Et d'autre part, il y a une mitzvah d'interroger pour avoir la réponse. Mais premièrement, nous sommes sur le verset qui institue la mitzvah d'expliquer au fils. Et Gata et Mitra, quand l'enfant demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans ce plateau, des œufs, de maror, enfin des herbes amères, des matzot, qu'est-ce que c'est ça? Et toute la mitzvah de la commémoration de Pessah. Et à la limite, toutes les mitzvot, tout le comportement juif, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Et vous voyez tout de suite, mais je vais revenir pour analyser plus profondément, la Torah prévoit qu'il est normal que l'enfant interroge son père. Retenez bien cela, du point de vue d'une pédagogie pratique et appliquée, et même théoriquement. Le fait qu'un enfant d'homme demande à son père qu'est-ce que c'est ça, être homme, c'est normal. Et j'expliquerai pourquoi. Mais à plus forte raison, le fait qu'un enfant juif demande à son père qu'est-ce que c'est ça, être juif, ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas de l'insolence. Au contraire, la Torah prévoit, c'est normal que ça se passe. Et alors il faut que le père puisse répondre. Et si le père ne répond pas, c'est là qu'il y a révolte. J'ai compris. J'ai dit souvent que le phénomène le plus important de l'histoire contemporaine, c'est les mouvements de jeunesse. Et les mouvements de jeunesse se sont fondés comme révolte vis-à-vis des familles qui ne savaient plus transmettre la tradition. Et je vous ai dit aussi que finalement l'État d'Israël sort du mouvement de jeunesse. C'est-à-dire que c'est quand les pères ne sont plus pères que les fils se révoltent. Bon, il ne faut pas être anti-père, okay. C'est pas de ça que je veux parler, c'est pas l'aspect psychologique de l'opposition des générations, c'est autre chose, mais dans la transmission d'une tradition. Si un enfant quitte la maison, c'est que c'est plus chez lui. Voilà, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. On n'a jamais vu un enfant quitter sa maison. S'il quitte la maison, c'est que c'est plus chez lui. Ça, je dis souvent au rabbin entre là, pourquoi ils se plaignent, pourquoi les juifs ne viennent pas à la synagogue? C'est parce que c'est pas chez eux. Si c'était chez eux, ils viendraient. Mais est-ce que c'est clair? Vous avez compris? C'est très profond, hein, but de rien. Prenez des notes. Donc, je reviens au problème. Bah, à vous, c'est à cause de cela. À ça, Hachem libre, c'est qui est ça? Que Dieu a agi pour moi, a fait pour moi, Betsetin et Israël, quand je suis sorti. Alors voilà ce qui se passe. La génération des pères, c'est la génération de la sortie. Eux ont vécu l'événement, ils savent. Déjà l'année d'après, va apparaître un enfant qui n'a pas été dans l'événement, dans l'histoire, qui ne sait pas. Et il est inséré dans une histoire qui n'a pas commencé avec lui, et dont l'explication se trouve entre les mains des pères qui, eux, ont assisté. Alors, si les pères ne transmettent pas, le fils sera déboussolé. Voilà, c'est l'essentiel de la Torah. Okay? La Torah prévoit que tout de suite, l'enfant interrogera. Pourquoi? Parce que la Torah sait qu'on ne peut pas réinventer par la raison, par l'intelligence, par l'imagination, ce qui a été un événement historique. Seuls ceux qui ont assisté à l'événement comprennent. Donc, ils ont le devoir d'expliquer à la génération d'après. Et c'est la raison pour laquelle, si ceci est transmis à chaque temps, la génération des pères, c'est celle qui est sortie d'Égypte. Elle sait de quoi il s'agit, parce qu'on lui a expliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'à nous, à travers 3000 ans. C'est-à-dire que, premier principe, ce fait que l'enfant interroge sera prévu par la Torah. Et la Gade va nous expliquer, en se basant sur la Mishnah, qu'il y a quatre tempéraments d'enfants, il y a quatre manières d'être enfant, il y a donc quatre manières de poser la question, il faut savoir répondre aux quatre. Et là, nous sommes vraiment en plein en pédagogie pratique. Et je reprends le principe, je pense que vous l'avez bien intégré. Premièrement, il faut savoir qu'il est normal qu'un jeune homme, en général, s'interroge sur le sens de sa destinée humaine. Si son père ne lui explique pas, il est perdu. Alors il cherche un maître. Mais ça passe des pères aux fils. C'est clair, parce que chacun est bien lui-même et pas n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire? Deuxièmement, à plus forte raison, dans l'enchaînement des générations de l'histoire du peuple juif, qui a vécu une expérience exceptionnelle. Et donc, l'enfant est non seulement autorisé, mené à, mais c'est normal qu'il interpelle la génération précédente de quoi s'agit-il. Et vous voyez à quel point a pu apparaître ce désarroi à partir du moment de l'émancipation qui a mené à l'assimilation, lorsque les jeunes juifs interrogent leurs parents et que les parents bafouillent. Hein? Alors il y a une révolte. Est-ce que c'est clair? Bon, en bonne part, je crois que les fondateurs des mouvements jeunesse juifs ont sauvé l'histoire. C'est pas parce que j'étais dans les mouvements de jeunesse, mais enfin, mais vraiment, je pense qu'il faut bien comprendre cela. Et ceux qui ont vécu dans les communautés contemporaines savent très bien que s'il n'y avait pas le mouvement de jeunesse, le judaïsme ne se perpétuerait pas. C'est vrai ou pas? Partout. Encore de votre temps, vous n'êtes pas tellement privilégié. Nous avons vécu la période héroïque de l'apparition du mouvement de jeunesse juif et où la conscience juive s'est récupérée du dedans du mouvement de jeunesse. Bon, ceux d'entre vous qui auront à s'occuper de ces choses-là, sachez qu'il y a là un instrument extrêmement important. Alors, toutes les activités communautaires finalement s'inspirent de ce qu'ont élaboré les mouvements jeunes. Vous avez remarqué. Et vous entendez tous ces notables des communautés. Ah, il faut penser aux jeunes. Ah, il faut les jeunes. Ah, les jeunes. Vous entendez ça, les jeunes. Mais, sauf, ils sont complètement incompétents. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas capables d'être pères. Être père, c'est pas possible. Vous avez compris le problème. Et alors, de génération en génération, va être reconduit ce fait que le souvenir, vous voyez que ce mot de souvenir, entendu en hébreu, va prendre un sens beaucoup plus fort. L'expérience qui s'est passée à la sortie d'Égypte doit être reconduite de génération en génération. Sinon, ça casse. Et c'est une mémoire qu'on ne retrouve pas, parce que ça ne peut pas se réinventer. Est-ce que vous comprenez? Il y a bien compris. Et alors, je vous dirai comment le Rav Kook nous a expliqué ça une fois, c'était assez impressionnant. Et il a raconté ça comme ça, un peu de façon décontractée, avec un sourire malicieux. En fait, je n'ai pas encore vu le. Il faudrait que je vous amène même. Bon, maintenant il est malade, il est en maison de convalescence, mais il faudrait que je vous amène même là-bas, si on arrive à trouver un moment. On vous donnera des blouses, des riz, des pas vrai. Et alors, le. On dit comme ça. La question qu'un enfant pose à son père, c'est enfin, qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie? Mais le sens de cette question, et même l'enfant quand il grandit, après la crise de l'adolescence, etc., même l'enfant va perdre le sens de sa propre question. Mais il n'y a pas d'autre question. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie? Quel est le sens de ma destinée? Et qu'est-ce que le père répond? Eh bien, tu seras avocat, tu seras ingénieur, tu seras docteur. C'est pas ça qu'il a demandé. D'où révolte. C'est-à-dire, le père fait semblant qu'il ne comprend pas. Malheureusement, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le sens de la vie. Vous avez compris. Et c'est vrai, d'ailleurs, à l'échelle de la génération contemporaine. La question de l'enfant, c'est quel est le sens de mon existence? Et qu'est-ce que le père lui répond? Eh bien, voilà ce que sera son métier. Mais ce n'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que c'est bien compris? D'où cette espèce d'impossibilité de communication. Et d'autant plus à l'intérieur de l'histoire juive, parce que qu'est-ce que le père, le fils demande à son père, non? Qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que le père répond? Tu es israélite, consistorial français. Alors ça éclate. Vous avez compris à quoi je peux dire? Imaginez un gosse de juif demander à son père, qu'est-ce que je suis? Et le père répond, mon fils, fais attention, tu es français, hein? Alors imaginez alors, c'est un enfant obéissant, il devient français, catastrophe, parce qu'il a été obéissant. Et il sait très bien que le père est autre chose que ça. Okay? Et, ou bien il se révolte, et grâce à Dieu, il devient juif. Vous avez compris le paradoxe de la sortie des juifs. C'est-à-dire, là, il faut savoir une chose. C'est que même s'il faut atténuer cela, parce qu'après tout il faut être poli, avec les lieux, mais le principe de mouvement de jeunesse, c'est la révolte contre les fascistes qui ont pris la France. Sinon il n'y aurait pas besoin de mouvement. C'est-à-dire, non, sinon il n'y aurait pas eu de mouvement de jeunesse. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? C'est vrai d'ailleurs dans la société occidentale, au moment de l'apparition du mouvement de jeunesse, c'est une espèce de tentative inextrémiste de sauver cette civilisation. Puis ça tourne court. Qu'est-ce que c'est arrivé à être les auberges de jeunesse, finalement le club méditerranéen. C'est-à-dire on va jouir la jouissance comme les parents, société de consommation, mais avec un style jeune, il n'y a pas plus clown que ça. Oui, ça c'est le raté. Vous êtes sérieux ou pas?
C'est une affaire.
Vous êtes allé une fois au club méditerranéen? Moi non plus. C'est comme ça. Ça. Bon. Il y en a qui sont venus là-bas. Bon. Bien. Alors, vous voyez pourquoi. Quel est le sens profond de cette institution de la Torah. Si la mémoire ne passe pas, rien ne va passer, parce qu'il s'agit d'une expérience. Or, comme les Juifs sont Juifs, qu'ils le veuillent ou pas, et quoi qu'il en soit, alors ils sont vidés de leur identité dans la mesure où ils sont vidés de leur mémoire, si ça ne passe pas, de père en fils, ou de grand-père à petit-fils, mais enfin vous avez compris ce que je veux dire. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, à ce propos, bon, il est déjà presque 7 heures, donc je venais à vous expliquer donc, le sens du mot Agada. Les Hagim, ça veut dire donner une explication. Mais ça veut dire d'abord raconter ce qui est arrivé, mais en l'expliquant. Il y a une des questions que je vais vous poser, cassez-vous un peu la tête, et si vous trouvez la réponse, vous m'envoyez un télégramme. C'est une mitzvah. Alors on s'est toujours posé la question, comment se fait-il qu'avant de réaliser cette mitzvah de la Haggadah, on va lire le récit pour expliquer aux enfants, on ne dise pas une bracha. Il n'y a pas de bracha dans les seder, ma chère qui déchanou, ben zota, ben sivanou, les saper, ben tiad mitzvah. Pourquoi il n'y a pas cette bracha? Vous avez compris la question du problème? Elle a été ordonnée, voilà la mitzvah, mais il y a une des 613 mitzvahs.
C'est pas parce qu'on l'aura fait déjà trop tous les jours, on l'aura pas.
Non, non, il y a une mitzvah particulière. Regarde bien le verset. Bah, Yom Haru, ce jour-là. Ce jour-là, ça veut dire le soir de Pessah, dès le commencement de la journée de Pessah. Vigata Levitra. Je veux dire, si j'ose dire, la Haggadah, c'est le plat de résistance du repas du Seder. Okay? C'est la principale partie du repas du Seder, de la cérémonie du Seder. C'est une mitzvah qui est instituée par ce verset. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une bracha avant? Réfléchissez.
C'est la seule mitzvah qui est faite en même temps pour la connaître.
Mais toutes les mitzvot sont comme ça. On les fait comme au moment où on les fait. Toutes les mitzvot. La mitzvah est pour le père qui va raconter. Et le père, il sait ce qu'il va dire. Donc, avant de faire la mitzvah de la Haggadah, d'expliquer à son fils, il devrait en principe dire la bracha, je vais accomplir cette mitzvah. Pourquoi il n'y a pas de bracha?
Est-ce que lorsqu'on fait
le
ramassage, quand même, c'est pas
ça qu'on pense pas? Ça n'a rien à voir. Ici, c'est une mitzvah particulière d'expliquer à l'enfant.
Elle a l'air un peu intense, cette mitzvah en général, c'est une mitzvah qu'on va lui expliquer, comme le totalit, quelque chose qui ne vient pas naturellement. Là, parler et dire à ses enfants, c'est quelque chose qui devrait sortir naturellement.
Oui, mais.
On devrait pas
tu sais comment on dit en français, ça va de soi. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que, bien entendu, ça devrait être. Mais il y a une mitzvah quand même. Je veux dire comment il a l'alakha. Et quand il arrive, enfin ça n'arrive jamais en principe, s'il arrive que quelqu'un est seul à faire le seder, il doit se raconter à lui-même. C'est une mitzvah de le faire. Et nous verrons à quel point la Haggadah va mettre en évidence cette importance. Raconter la sortie d'Égypte, c'est très important, c'est ça qui nous a sauvés. Si on avait oublié cela, nous ne serions plus ce que nous sommes. C'est pire que ça, parce que comme de toutes les façons nous sommes ce que nous sommes, nous serions vides d'identité. La sortie d'Égypte nous a donné notre identité. De toutes les façons, on ne peut pas ne pas être le peuple juif. Mais un peuple juif sans mémoire, c'est la catastrophe des catastrophes. Ça vous explique pourquoi il y a une telle tendance au nihilisme dans la jeunesse juive coupée de son identité. Parce que, plus qu'inconsciemment, profondément, elle sait, cette jeunesse, qu'elle n'est pas comme les autres, mais elle ne sait pas qui elle est. Alors c'est ça qui mène au nihilisme. Vous comprenez? Et avec une maladresse énorme et catastrophique. Alors vous voyez donc cette responsabilité qui vient parfois d'une espèce d'hypertrophie de la pudeur. Ça, c'est les stratégies du Satan. Entre les parents et les enfants, il y a une pudeur telle qu'on ne parle pas de l'essentiel. On se parle, on se dit beaucoup de choses, mais justement pour éviter de se parler de l'essentiel. Passe-moi le sel, le couteau ne coupe pas, ta viande n'est pas cuite, vous voyez ce que je veux te dire, mais on ne se parle pas. De l'essentiel, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie? Et puis la réponse, encore une fois, ben, toi, il vaut mieux que tu sois avocat, vous connaissez l'histoire juive. Comment vont vos enfants? Eh bien, l'avocat à 3 mois, il va bien, merci. Le médecin qui a 7 ans et demi, eh bien, il va bien aussi. Et le juif, comment il va? Ah, n'en parlez pas, je suis français. C'est clair. Oui, le drame de cette communauté. Bien. Alors, Il faut, pour que cette agada, ce récit, cette explication soit efficace, il faut qu'elle vienne comme réponse à une question. S'il n'y a pas la question, on n'entendra pas la réponse. S'il n'y a pas la capacité de question, on n'entendra pas la réponse. Est-ce que c'est clair ? C'est la raison pour laquelle la disposition du CDR est pour provoquer la question. C'est-à-dire, on va changer quelque chose dans le comportement. Parce que ce changement, vous me suivez, voyez, assez de vous faire des signes souffrés. Le changement, c'est quoi ? À quoi l'enfant doit être sensible ? C'est qu'il y a un chinoui, un changement. Nous ne sommes pas comme les autres. Et c'est ça qu'il demande. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que nous ne sommes pas comme les autres ? Mais comment, finalement, les choses sont élémentaires et vécues de façon élémentaire ? C'est ça la question de l'enfant juif. Pourquoi je ne suis pas comme les autres ? Et c'est ça la question de l'homme juif. De quoi s'agit-il ? Quoi ? Dans ma différence, ma nishtana. C'est ça la question essentielle. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec moi ? Vous voyez, donc le chinoui provoque la question. Alors c'est à ce propos que la Mishnah, enfin la Gala, va nous donner une leçon de pédagogie qui, à ma connaissance, n'a jamais été dépassée. C'est que il y a quatre tempéraments d'enfants vis-à-vis de ce problème, du sang, de la destinée. Alors je voulais que je vous le mette au tableau. Que par conséquent, il y a quatre manières de répondre correspondantes. On ne peut pas s'adresser dans la réponse de la même manière suivant l'enfant. C'est clair ? Alors, le premier, on appelle le haram. Haram, ça veut dire sage. Je vais vous expliquer très rapidement, ensuite vous le verrez dans le texte. Le sage, c'est celui. Qu'est-ce qu'on peut appeler un enfant sage ? C'est celui qui, de lui-même, sait qu'il y a une question et il attend la réponse. C'est ça la sagesse de l'enfant. C'est clair ? Le haram, quelle est sa question ? Il demande, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je comprends, je sais qu'il y a un sens à ma différence, qu'est-ce que je dois faire pour réussir ? Pour accomplir. C'est clair, ça c'est le haram. C'est celui qui est sensible de lui-même au fait qu'une question se pose. Bon, le deuxième enfant s'appelle le rachat. Il est aussi haram que le premier. Le racha, ça veut dire le méchant. Et vous voyez, il y a ici un problème que j'étudierai d'autre part, parce que ça, on n'a plus le temps. Haram ne s'oppose pas à racha. C'est tzadik qui devrait s'opposer à racha. Okay? Moi, je veux dire, on ne nous a pas dit un tzadik et un racha. Un haram et un racha. Ça, c'est un haram tzadik. Et ça, c'est un haram racha. Lui aussi, ce racha, il voit la différence. Mais il en veut pas. La question du haram, je la formulerai comme ça. Qu'est-ce que nous avons à faire ? Il se met dedans tout de suite. Okay ? La question du rachar, c'est qu'est-ce que vous faites ? Il se met dehors tout de suite. Et c'est ça la définition du rachar. Celui qui se met en dehors. Mais c'est-à-dire, il comprend qu'il se passe quelque chose, mais il n'en veut pas. Alors nous verrons ensuite, dans le détail du texte, comment la réponse doit être adaptée à chaque intervenant. C'est clair ? Le troisième, c'est le tam. Le tam. Tam, ça veut dire le simple. Le simple, c'est celui qui se borne à interroger. Je voudrais quand même différencier la question du simple de la question du haram. Le haram comprend par lui-même que ce qui se passe est important. Le simple est simplement sensible au fait qu'il se passe quelque chose. Il demande qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il. Mais de façon, je vais d'abord employer les mots dans le sens que je corrigeais, de façon naïve, ça veut dire sans chercher de complications. Dis-moi, je ferai. Ça, c'est le simple. Et puis le quatrième, c'est... Je Dire Lichol, ça veut dire celui qui ne sait pas interroger, ça veut dire celui qui ne sait même pas qu'une question se pose. Bon. Et donc il faut adapter la Haggadah, le récit, l'explication, à ces quatre manières de poser la question. Je vous en ai déjà dit. Le principe qui les récapitule dans le même ensemble, c'est la manière de poser la question de l'enfant sur le sens de sa décision. Il y a quatre manières. Elle dit, je comprends, s'il y a quelque chose à faire, dis-moi quoi. Alors, à lui, on ne fera pas de la philosophie. Au Hacham, on ne fera pas de... On n'a pas à lui apprendre à être Hacham, il est Hacham. Okay. Il a compris. Il demande à prendre la suite. C'est clair, le Rachat, il comprend ce qui se passe, mais il est contre. Il s'oppose. Le Tav demande à être inséré dans l'histoire, et le Chéno de Harishol, c'est cette quatrième catégorie d'enfants qui ne sait même pas se rendre compte qu'une question se pose. Alors comment se conduire avec lui? C'est celui-là qui est le plus important. C'est celui qui sait poser la question. Je formule un peu de cette manière, qui ne sait même pas qu'une question se pose. Là, tous les pédagogues vous diront qu'il y a un problème important en pédagogie. Quand quelqu'un ne se pose pas une question, est-ce qu'on a le droit de la lui poser, de le sortir de sa tranquillité? Vous comprenez ce que je dis? Lui poser des questions, de le mettre en question. Alors la réponse de la Haggadah est claire. Si tu ne le fais pas, si tu ne provoques pas la question, c'est toi qui es responsable du fait qu'il ne sera pas un homme. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'initiative. C'est-à-dire qu'il faut dépasser le scrupule. Très souvent, dans n'importe quelle école pédagogique, on dira qu'il y a une espèce de scrupule à sortir l'enfant de son innocence, quel que soit l'âge. À provoquer la prise de conscience. Alors la Haggadah va nous donner toute une stratégie pédagogique, comment faire pour cette quatrième catégorie. Alors on a donné dans la... Je vais par la suite dans l'étude de la Haggadah. La réponse générale, c'est de raconter l'histoire de l'exil. Et que pendant tout le temps de l'exil, on était dans la nuit. Et qu'en fait, quand on est arrivé au matin, le temps du créachéma du matin. C'est ça qu'il faut expliquer. Il y a une tradition qui récapitule ça de la manière suivante. Et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Si vous prenez les initiales de ces quatre enfants, apparaît le mot Dieu. Apparaît le mot de Charles. Regardez comment. Shin, Yu, Sheino, Yodéa, Michel. Tav, Tav, Esh, Racha, Esh, Racha, Vous me voyez dans Shachrit, il y a cinq lettres. Dans le mot Shachrit, il y a cinq lettres. Provisoirement, je vous ai mis chez nous, Yodéa, le Shuri, ici. Ajoute une autre question. En réalité, il y a cinq enfants. La Haggadah nous parle de quatre, il y en a cinq. Vous vous rappelez toujours, nous allons voir d'ailleurs, toujours quatre qui pensaient. Donc il y en a un cinquième. Qui c'est ce cinquième qui n'est pas là?
C'est celui qui est venu.
Hein?
C'est le père qui est venu.
Non, le père, c'est pas un enfant.
C'est celui qui ne peut pas poser la question parce qu'il n'est pas. Il ne voit pas.
Non, celui-là, c'est le quatrième. Il ne pose pas la question parce qu'il ne voit rien. Les choses se passent et il ne voit pas. Vous voyez, d'ailleurs, comme la Mishnah lui dit, chez nous, il y a des dernières choses, celui qui ne sait pas se poser la question, c'est qu'il a beau assister, il ne voit rien.
Celui qui ne voit rien, ne peut pas.
Hein? Celui qui voit rien.
Non, mais toutes les
façons,
il se passe. Ton hypothèse est gratuite.
C'est pas le fauteuil de route.
La réponse est très simple. Celui qui n'est pas là, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, celui qui n'est pas là? Il y a ceux qui sont dans la famille. Bon, mais il y en a un qui manque. Celui qui est en dehors. Ah, je m'exprime mal, je ne veux pas que vous essayez de deviner des choses que j'ai pas dites. C'est, par exemple, dans la communauté, il y a ces quatre sortes de juifs. Mais il y a ceux aussi qui ne font pas partie de la communauté. Celui qui est en dehors, celui qui n'est pas là, celui qui manque.
Ils font quand même partie du de ces communautés.
Non, il n'est même pas là. C'est la majeure partie des juifs qui sont là, le cinquième enfant.
S'il n'est pas là, c'est parce qu'il s'est pas questionné.
Non,
non. Non, je
dis, c'est bien le... Il n'est même pas invité
parce que... Oh, mais si, si c'est posé la question, on serait là.
Alors, comprenez bien, ouais, je sais, c'est pas tellement difficile. Je ne pas m'y il y a quatre enfants dans cette famille-là, qui est la famille d'Abraham. Il y en a un qui est Racha. Il y a quelque chose à faire, je suis prêt. Il y en a un qui est Racha. Il y a quelque chose à faire, je ne suis pas prêt. Il y en a un qui est Tal. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et puis, il y en a un... Ils ne se rendent même pas compte qu'ils se passent quelque chose, mais ils sont là. C'est les juifs en général. Pierre a quand même un cinquième, à celui qui est en dehors, qui n'est même pas là. Vous avez compris? Je veux dire une chose, d'un point de vue historique, on va s'arrêter là. Dans un...